troisième élément qui fait que le voyage nomade vous donne l'impression d'être dans un état de grande énergétisation, décuplé par le sentiment de solitude, c'est que lorsque vous êtes en route, seul, tout à coup, et ça c'est mon troisième point, tout à coup il vous vient le sentiment, enfin, mystérieux, venu d'on ne sait pas très bien où, mais qui est impossible à éprouver ici, je veux dire dans les villes et dans nos vies très sophistiquées, très urbanisées, très forcetées, très maîtrisées, ce sentiment bizarre d'appartenir au grand édifice du vivant. Alors ça paraît un peu mièvre quand on dit ça ici à l'Institut Océanographique, à Paris, ça paraît un peu fleur bleue, mais tout le monde qui a un jour bivouaqué tout seul dans une forêt, ou qui a traversé une grande steppe, ou qui a pratiqué cette géographie que moi j'aime beaucoup, qui est la géographie de la désolation, celle des steppes, des plateaux, des grands étendues vides, tout le monde a ressenti un jour, à cause de la solitude qu'il a étreint, une sorte d'immense bienveillance pour des petits êtres qu'il n'avait même pas regardés. Je veux parler des insectes, je veux parler des plantes, je veux parler des arbres. Et on se met à renouer, et à mon sens c'est ce qui est le plus important, avec cette conversation, avec les bêtes, avec les plantes, que nous avons un peu, que nous cessons d'entretenir lorsque nous vivons dans les villes. Eh bien, tous les grands écrivains, ou les penseurs, ou les voyageurs qui se sont exprimés, qui ont développé leur pensée sur le thème de la solitude, parlent de cette conversation renouée. Tous les grands solitaires, un jour, se sont mis à regarder d'un autre œil le papillon qui passait. J'appelle ça, moi, le syndrome de Saint-François d'Assise. C'est-à-dire que vous êtes en train de marcher dans une forêt, et soudain, vous vous mettez à regarder les plantes et les arbres en vous disant, finalement, je ne suis pas complètement seul. Et la solitude n'a pas de sens, et il suffit de me dire que j'appartiens au même projet, au même édifice que les animalcules qui sont en train de croiser ma route. Il y a un très bel aphorisme d'un aphoriste que j'adore, moi, qui était un aphoriste allemand qui s'appelait Lichtenberg, un aphoriste du XVIIIe siècle qui disait des choses très noires, très pessimistes, très méchantes. Il disait par exemple, le mois de janvier est le mois où on souhaite ses meilleurs voeux à ses amis, et puis les autres mois sont ceux où ils ne se réaliseront pas. Alors, il était comme ça un peu cynique, et un jour ce type, 18e siècle, 1870, voit une petite araignée sur son bureau et lui dit « Pardonne-moi de te cacher le soleil, après tout, tu y as le droit autant que moi. » Et je trouve cette phrase magnifique parce que voilà un pur produit de l'Occident, des Lumières et de la Renaissance. Cet homme qui incarne le génie européen du siècle des Lumières, plaçant l'homme au pinacle de l'édifice vivant, et qui tout à coup tire sa révérence devant une araignée. Et je trouve que c'est extrêmement moderne. En tout cas, c'est audacieux. Et puis ça ne ressemble pas tellement à l'esprit qui baignait son temps. Eh bien, je pense que cette révérence que l'on tire aux petites bêtes, on la ressent profondément lorsqu'on est en état de solitude dans la nature. Je pense donc à Saint-François d'Assise, je pense au Bouddha faisant l'expérience de la solitude, bien entendu, et réussissant à apaiser l'éléphant qui menaçait de piétiner l'assistance. Je pense à Saint-Séraphin de Sarov, qui est l'homologue orthodoxe de Saint-François d'Assise. Saint-Séraphin de Sarov était une sorte de mystique russe qui vivait dans la région de Sarov et qui s'est enfermé dans une cabane pendant 15 ans. Et à la fin de sa vie, les ours venaient lui rendre visite, s'agenouiller près de lui. Enfin, on est exactement dans la même mythologie, dans la même légende, dans la même iconographie même que le lion, le frère lion, s'agenouillant devant Saint-François.